Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le secrétaire exécutif de la Commission des Nations Unies pour l'Afrique, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants d'institutions internationales, Messieurs les professeurs et étudiants, Mesdames, Messieurs, je voudrais, au début de mon propos, souhaiter la bienvenue à tous ceux qui aujourd'hui se trouvent dans cette salle pour avoir des échanges sur une question cruciale, une question même d'existence, à savoir les États-Unis d'Afrique. Je voudrais, à ce niveau, saluer et féliciter Monsieur Jean Ping, président de la Commission de l'Union africaine, et dire que nous avons de la chance d'avoir à la tête de cet organisme quelqu'un qui croit à l'Afrique, qui croit aux États-Unis d'Afrique. Malheureusement, il se meut dans un milieu difficile, plein de contradictions. Et sa fonction, qui consiste quand même à trouver des compromis et à avancer, n'est pas une fonction très facile. Mais je voudrais lui dire que je suis de ceux qui le comprennent, de ceux qui le soutiennent, parce que nous savons que nous allons dans la même direction. Mesdames, Messieurs, cette réunion aujourd'hui d'intellectuels, de chercheurs, des universités, des instituts, est née du souci de certains Africains d'apporter leur contribution à la réflexion de la Commission de l'Union africaine, qui avait engagé une réflexion sur l'évolution de l'Afrique vers les États-Unis d'Afrique. Donc, Monsieur le Président de la Commission, comprenez cette réunion comme l'expression d'une volonté de vous aider dans ce que vous êtes en train de faire actuellement avec autant de dévouement. Les intellectuels aujourd'hui ont une attitude très constructive. Notre génération avait des intellectuels qui étaient par nature dans l'opposition. On ne cherchait même pas à savoir si le pouvoir avait raison ou n'avait pas raison. A priori, on était contre. Alors le résultat, c'est que nous n'avons jamais pesé sur l'évolution de l'Afrique. Jamais. Peut-être individuellement, certains qui ont pu entrer dans les gouvernements. Mais collectivement, il faut le regretter, jusqu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est mon appréciation, les intellectuels ne pèsent pas sur l'évolution politique de l'Afrique. Il faut le regretter. En tout cas, personnellement, je le regrette. Je ne veux pas vous flatter. C'est malvenu de ma part de vous dire ce que je ne pense pas. L'Afrique peut-elle évoluer sans ses intellectuels? Oui! Mais dans quel sens et à quel rythme? Le problème est là. Vous savez, Moi, je suis de ceux qui pensent en termes d'optimation. Vous me direz que ce sont des suppositions. Si aujourd'hui les intellectuels s'étaient mobilisés de façon efficace pour accélérer les choses, pour accélérer l'évolution de l'Afrique, ce serait formidable. Mais tel n'est pas le cas. Alors, je voudrais bien quand même ici être précis. Des intellectuels qui, dans les universités, écrivent des thèses, écrivent des ouvrages, il y en a beaucoup. Mais s'ils pèsent sur la réalité, non ! Mais c'est cela le problème. Alors, ce symposium se voudrait le point de départ d'une autre vision du rôle des intellectuels en Afrique. En tout cas, c'est cela que j'espère. Comment les intellectuels peuvent-ils peser sur l'évolution de l'Afrique? C'est un très grand problème. Ce n'est pas, bien entendu, en restant dans les universités, c'est bien d'écrire des ouvrages, de réfléchir. C'est ce qu'on a toujours fait. Ce n'est pas non plus d'affirmer une volonté ou un semblant de volonté, alors qu'en réalité, on n'a pas les pieds sur terre. Je suis désolé de vous dire que la première exigence, si vous voulez réellement, je dis bien si, vous voulez réellement peser sur l'évolution de l'Afrique, pour que cette évolution se conforme aux idées que les uns et les autres nous avons élaborées et qui ne sont que projets, il faudrait deux choses. La première, c'est que vous soyez réaliste, et la deuxième, c'est que vous soyez courageux. Il faut avoir le courage de regarder les choses telles qu'elles sont. On ne peut pas traiter aujourd'hui des États-Unis d'Afrique sans aborder certaines questions réelles. Parmi les difficultés qu'il a soulignées, il y en a certaines que vous allez aborder, mais il y en a d'autres qui existent. Il faut les regarder de près. Je voudrais, sur ce plan, vous dire qu'il n'y a pas seulement les maximalistes, comme moi, qui voudraient ici et maintenant instaurer les États-Unis d'Afrique, et les gradualistes, mais il y en a d'autres catégories, alors qu'ils sont réels. Il y a aujourd'hui des Africains qui pensent qu'il faut passer par des fédérations primaires pour aller à l'Union africaine. Si vous omettez cette hypothèse, vous êtes en dehors de l'Afrique réelle. L'Afrique de l'Est pense, ce sont pas des anti-fédéralistes, des anti-Union africaine, mais autour de Museveni, autour du Kenya, un certain nombre de pays pensent qu'on ne peut pas aller comme ça en état indépendant vers les États-Unis d'Afrique, mais qu'il faut un regroupement primaire. J'ai eu l'occasion de discuter, et M. Museveni lui-même l'a reconnu un jour, en pleine réunion, en plein sommet, a reconnu qu'il a été convaincu par le président Watt. Il peut ne pas y avoir d'opposition. Je pense que, mais si nous posons le problème, qu'il faut que tous les pays africains viennent individuellement à l'Union, à la Fédération, mais ce n'est pas réaliste. Ou alors, il faut régler ce problème actuel de la position de ces États africains. Et vous ne pouvez pas comme ça raisonner les États-Unis d'Afrique en termes d'État souverain. Non. Un deuxième problème que je dois souligner, parmi les obstacles, c'est
la constitution en cours de la Méditerranée. Il faut avoir le courage de regarder cette question, parce qu'elle peut peser sur le devenir de l'Afrique. Et c'est pourquoi je vous pose la question, moi. Vous parlez des États-Unis d'Afrique, mais avec qui? Il faut répondre à cette question, avec qui vous allez la faire? Avec qui? Mais vous raisonnez comme ça, un continent homogène, etc., etc. Je suis désolé, mais c'est une perte de temps. Avec qui vous allez faire? Les États-Unis d'Afrique. Pendant qu'il y a toute une stratégie européenne pour détacher l'Afrique du Nord de l'Afrique au sud du Sahara, de l'Afrique noire. Et je prends mes responsabilités. Cela n'a rien à voir avec l'idée de coopérer. Si l'Europe ne veut pas coopérer avec l'Afrique, mais qu'est-ce que vous voulez? Nous allons nous croiser les bras. Alors à ce moment-là, un jour, nous serons surpris. Parce que nous nous laissons toujours surprendre. Parce que nous ne faisons pas de prospective. Parce que nous ne réfléchissons pas sur l'avenir. Mais le propre des intellectuels, c'est de réfléchir sur les hypothèses futures. Et ne pas dire que c'est ça qui va se faire ou que c'est ça qui va. Non, il faut réfléchir sur les éventualités. Tout le monde sait que moi, comme tous les Sénégalais, beaucoup d'Africains, nous sommes attachés à des relations avec les Européens, avec l'Europe. Mais si l'Europe nous rejette, c'est ça aussi, il faut le dire. Si l'Europe nous rejette, nous avons évidemment les accords ACP. ACP. Et l'autre jour, M. Barroso me disait, dans une discussion, si seulement vous m'aviez fait auparavant la proposition de transformer les APE en APD, nous serions avancés. Il m'a dit, personnellement, je ne vois aucun inconvénient pour qu'on les appelle les accords, les APED pour le développement. Mais le fait d'être attaché à ça, mais cela suppose, vous savez, comme on dit, pour danser, il faut être deux. Oufet Boigny disait un jour, j'étais juste dans les débuts de l'indépendance, quand il était en quête d'une alliance très profonde avec la France, il disait, je suis comme la mariée qui attend sur le parvis de l'église avec son bouquet de fleurs. C'est pourquoi il faut regarder la réalité. Et les intellectuels, souvent, ne regardent pas la réalité. Et la réalité, pour la regarder, il faut avoir du courage. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Cette histoire de l'immigration, de l'émigration. Moi, je suis un de ceux qui sont contre l'immigration. Et ici, au Sénégal, je fais tout pour que les jeunes ne sortent pas. Et dans cette direction, nous avons un accord avec l'Espagne et avec l'Europe. Et nous essayons de prendre tous ceux qui tentent de sortir pour les ramener au Sénégal. Nous assumons cette responsabilité. Mais de là à fermer l'Europe à l'Afrique noire, parce qu'il s'agit de ça, eh bien, il y a, comme on dit, des kilomètres. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'Europe s'ouvre à l'Afrique centrale. 80 millions de citoyens d'Afrique, d'Europe centrale, sont intégrés à l'Europe. Ils peuvent voyager, ils peuvent avoir des jobs, tranquillement. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'Afrique noire? On me ferme la porte. On me laisse un tout petit passage. Il faut avoir un visa. Et ce visa, il faut avoir... c'est pas n'importe quel visa, si c'est encore un visa simple. Mais il faut avoir le level de la compétence. C'est-à-dire l'Europe voudrait bien nous prendre, nos ingénieurs, nos savants, nos professeurs, nos médecins, mais pas le reste. Mais alors, comment voulez-vous? Vous savez, malheureusement, souvent je ne suis pas compris. Et après cette réunion aujourd'hui, je ne serai pas non plus compris. Mais tant pis. Tant pis! Parce que je n'ai jamais changé de langage. Jamais. Alors, qu'on essaie donc de me comprendre. Moi, je ne veux pas que les Africains abandonnent l'Afrique pour aller s'installer en Europe. Si il n'y avait que ça, j'aurais pu le faire. J'avais tout pour vivre en Europe, pour aller enseigner aux États-Unis, pour faire autre chose. Je ne suis pas d'accord que les Africains sortent. Mais les Africains ont besoin de relations avec l'Europe pour travailler sur le plan économique, sur tous les plans, pour aller en tourisme, etc. Alors, cette restriction au déplacement des Africains en Europe, c'est un acte historique. Cet acte de Schengen, du protocole de Schengen, c'est un acte très grave. On ouvre la porte aux autres, et nous, on nous fait passer par la petite porte. Toutes ces restrictions, il faudrait que les Européens réfléchissent, il faudrait que les Européens réfléchissent sur ce qu'ils sont en train de faire vis-à-vis de l'Afrique noire. Et je pèse mes mots, je dis l'Afrique noire. L'Afrique noire. Pourquoi? Parce que l'Europe est partie de l'idée de l'union autour de la Méditerranée. J'ai trouvé que c'était très bien, parce que c'est l'histoire qui veut que la Méditerranée soit une vie. Il y a une vie méditerranéenne depuis l'Antiquité, de commerce et d'échange. Ça, c'était les intentions proférées à Barcelone. Mais l'Allemagne a considéré que la France, étant engagée dans l'Union européenne, ne pouvait pas s'engager dans une entité économique toute seule, qui est celle de la Méditerranée. Et la question de la Méditerranée a donc été évoquée au niveau de l'Europe. Aujourd'hui, elle est traitée au niveau de l'Europe. Elle n'est plus une question économique. Elle est devenue une question politique. Ça aussi, il faut avoir le courage de le dire. C'est pour aller où? C'est pour aller où? Les Européens, je n'ai pas encore parlé des États africains du Nord, parce que je vais y venir, mais les Européens, eux, leur stratégie, c'est comme ça que je la comprends. Détacher l'Afrique du Nord de l'Afrique au sud du Sahara. Intégrer même l'Afrique du Nord. Le président Bush, il avait lancé l'idée du Grand Maghreb. Vous vous rappelez? Hein? Oui, le Grand Moyen-Orient. Grand Maghreb, Grand Moyen-Orient. Et il voulait intégrer le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte avec le Moyen-Orient pour faire un grand ensemble arabe. Heureusement que ça n'a pas marché. La réaction qu'il faut souligner et saluer, c'était celle du Maroc, qui n'avait pas accepté. Le projet donc américain aurait détaché l'Afrique du Nord de l'Afrique au sud du Sahara. Ce projet a été abandonné, bien entendu. Mais ce projet d'aujourd'hui, mais il faut qu'on en parle, nous avons des alliés depuis pendant la colonisation déjà. Nous nous sommes battus ensemble. Le rôle d'un Mohamed V dans le processus de l'unité africaine est fondamental. Les conférences africaines, panafricaines de l'époque, certaines se déroulaient en Afrique, mais d'autres c'était en Afrique du Nord, à Tunis. Parce que les leaders de l'époque se sentaient comme des leaders du continent africain. Ce sera le problème. Mais aujourd'hui, il faut se poser la question de savoir. La stratégie européenne, moi je la connais, c'est ce que je dis. Maintenant, quelle réponse pour les États de l'Afrique du Nord? Cela aussi est un problème. Vous voulez ignorer ça? Bon, très bien. On ignore et on verra bien. Mais les choses sont en train, il y a des choses qui sont en train de se faire. La répartition des responsabilités que fait l'Europe aujourd'hui entre les États riverains de la Méditerranée, du Maroc jusqu'en Égypte, le secrétariat, les postes de cela, l'intention est réelle. C'est l'intégration de l'Afrique du Nord à l'Europe. La stratégie de construction des infrastructures, routes, voies ferrées, du Maroc jusqu'en Égypte, l'intention est réelle.
quand je l'ai souligné au dernier sommet, il y a quelqu'un qui me dit, mais c'est pour faciliter les relations avec l'Afrique noire. Je dis non, en attendant, ces relations sont verticales, elles sont horizontales, elles ne sont pas verticales. Si elles étaient verticales, on aurait encore admis cette thèse, mais en réalité, comment cela s'est fait que l'Europe, dont nous obtenons difficilement le financement des grands axes de l'Afrique, les corridors, les voies ferrées, les routes, brutalement, veut créer l'Union africaine et on trouve de l'argent pour faire des routes, des chemins de fer de l'Est à l'Ouest. Mais ça aussi, il faut le dire. Le dernier voyage de Alibi en Italie, ça s'est traduit par quoi? L'offre de l'Italie de construire justement une autoroute qui relie la Tunisie à qui relie la Libye à l'Égypte. Nous ne pouvons pas ne pas poser ces problèmes. Alors, les réactions maintenant de nos frères, de l'Afrique du Nord, il n'y a pratiquement pas de réaction véritablement connue. Mais moi, j'aimerais vraiment que les choses soient claires. Ce sont des États libres qui peuvent s'orienter dans une direction ou dans une autre. Mais nous, nous avons besoin de savoir, est-ce que ces États sont décidés à aller avec nous vers les États-Unis au niveau continental, ou bien est-ce qu'elles se tournent vers l'Europe à partir de la Méditerranée? Je suis désolé, cette question doit être posée. Il y en a un qui a répondu clairement, c'est la Libye. Et encore, souvent ils nous menacent en disant, écoutez, si vous ne faites pas ça, moi je m'en vais. Je m'en vais à la Méditerranée. Ben, je lui disais, tu peux y aller, mais laisse-nous le pétrole, parce que le pétrole appartient au continent. Alors, donc, il faut qu'on réponde. Moi, ce ne sont pas des invectives. Je veux simplement savoir. Il faut qu'on sache, nous ne pouvons pas continuer à faire des grands discours sur l'unité d'Afrique, les États-Unis d'Afrique, alors qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Moi, si un État de l'Europe, de l'Afrique du Nord me dit, je veux poursuivre des relations économiques avec la Méditerranée, mais sur le plan politique, j'appartiens toujours au continent africain, là je dis chapeau. Mais pour l'instant, les choses ne sont pas claires, parce qu'on les invite dans un ensemble qui est politique. On a dépassé la Méditerranée économique. Maintenant, la Méditerranée, dans l'esprit des Européens, c'est l'intégration à l'Europe. Alors, je disais souvent que je suis toujours très mal compris, parce que cela n'a rien à voir avec la coopération avec l'Europe. Ce n'est pas parce que l'Europe finance des routes, de tout ce qu'on veut, beaucoup de choses ici, par exemple au Sénégal, que sur le plan continental, que je ne me préoccupe pas des intérêts de l'Afrique. Et que je dise que, sur le plan continental, on n'a pas fait ce qu'on avait à faire. Si nous avions des routes, des chemins de fer à travers le continent, notre intégration serait faite depuis très longtemps. Donc voilà le problème. Je ne dis pas que l'Union européenne n'aide pas l'Afrique, n'aide pas le Sénégal, c'est absurde. Ce n'est pas ça du tout. Mais quand même, moi je suis un intellectuel, hein, je suis obligé de réfléchir sur l'avenir du Sénégal et l'avenir de l'Afrique. Donc, je souhaiterais véritablement que cette question soit posée. Faire les États-Unis d'Afrique avec qui? Et comment? Comment l'Afrique de l'Est vous donne une réponse? Nous étions un certain nombre de pays à dire, si les autres ne sont pas convaincus pour aller vers, tout de suite, vers les États-Unis d'Afrique, c'est-à-dire vers un gouvernement continental, nous allions constituer un noyau, comme l'ont fait les États-Unis, comme le rappelait tout à l'heure le professeur Ibader Thiam. Mais ce n'est pas être anti-africain que de nous regrouper. Si nous sommes un certain nombre de pays à croire aux États-Unis d'Afrique, à constituer ce noyau avec un gouvernement pour montrer aux gens que finalement ce n'est pas contraire ni à la souveraineté ni à autre chose. Cette question de souveraineté dont vous avez parlé, personne n'a dit à personne de renoncer à sa souveraineté. Mais la souveraineté peut vous permettre
de limiter de limiter votre souveraineté. Qui dira que le Sénégal n'exerce pas sa souveraineté? Mais dans notre constitution, il a été dit depuis très longtemps que le Sénégal est prêt à renoncer à sa souveraineté pour une unité africaine supérieure. Alors, ce n'est pas contraire. Et nous sommes quand même indépendants. Quel est le pays africain qui est plus indépendant que le Sénégal aujourd'hui? Donc, cette question doit être posée. Je voudrais dire aussi qu'il faut répondre au grand problème de l'inégalité ou des déséquilibres entre les pays. On dit, ah, le Nigeria, c'est un mastodonte. La Gambie, le Sénégal, ce sont des petits pays. Alors là, je vous renvoie à la Bavière et la République fédérale allemande. La Bavière qui représente 80% des inventions, donc c'est le cerveau de l'Allemagne, elle est très grande, mais elle s'unit quand même avec d'autres États beaucoup plus petits, sans problème et sans arrière-pensée. Si vous prenez la Californie aux États-Unis, c'est un État, un grand État, mais qui, sans problème et sans arrière-pensée, s'unit à des États plus petits. Vous prenez Sao Paulo, qui fait 50% du Brésil, à tout point de vue, mais qui s'unit à des petits États. Donc ici, Afrique, il n'y a pas d'inconvénient à avoir des grands États comme le Nigeria, avec des petits États comme le Sénégal ou d'autres plus petits, n'est-ce pas, dans une union, puisque nous avons des antécédents, nous avons une expérience dans ce domaine. Alors, je voudrais donc dire, mes chers messieurs, mes chers compatriotes africains, que les intellectuels qui sont naturellement indépendants, qui ont la liberté d'esprit, doivent réfléchir à ces questions et se prononcer. Si, par exemple, les intellectuels disent, nous voulons l'unité de tout le continent, mais il faut être conséquent, il faut combattre toutes les forces centrifuges. Vous ne pouvez pas le dire et puis vous croiser pendant que d'autres sont en train de détruire cette unité. Il faut être logique. Il faut être logique. Mais si vous ne posez pas les problèmes, comment vous allez prendre une position? Maintenant, si vous dites, bon, nous sommes pour une unité dans laquelle les pays peuvent se déterminer au plan sous-régional, alors là, il faut permettre à d'autres de faire ce que fait l'Afrique de l'Est. Et nous permettre, nous, en Afrique de l'Ouest, parce que nous en avons déjà discuté, de constituer les États-Unis de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons discuté concrètement. Alors, ces problèmes dont je vous parle, qui sont des problèmes réels, comment les intellectuels peuvent ignorer ça, se réunir, parler de souveraineté, parler d'unité africaine et parler des États-Unis d'Afrique? Parce que ça, ce sont des problèmes tout à fait réels, des problèmes, comme on dit, concrets. Alors, d'où la question, avec qui? Deuxièmement, quel État fédéral? États-Unis d'Afrique, confédération? Ou quoi? La question doit être posée. Alors, si, comme je l'espère, les intellectuels sont orientés vers les États-Unis d'Afrique, alors il leur appartient de procéder aux études fondamentales. Vous ne pouvez pas rester dans les généralités. Toujours à faire des déclarations, l'unité, le ceci ou ça, il faut aller au-delà, sur le plan pratique. Parce que entre 2010 et 2017, date de la date qu'on avait envisagée comme la proclamation des États-Unis d'Afrique, mais ça fait quand même 7 ans, pendant lesquels, pourquoi attendre le dernier moment pour faire des études, alors que vous pouvez les faire? Vous avez toutes les compétences pour faire ces études. Vous pouvez d'ores et déjà créer une sous-commission. D'abord, vous érigez en commission. Moi, je vous propose que vous érigiez en commission des intellectuels africains pour les États-Unis d'Afrique. D'autres pourront venir vous renforcer. Et pourquoi ne pas créer une sous-commission des affaires juridiques pour justement élaborer la constitution des États-Unis d'Afrique? Pourquoi ne pas le faire?
attendre le dernier moment pour aller chercher des assistants ou des bureaux de recherche. Vous pouvez le faire. Et tout ce qui se rapporte au droit, le code criminel, le code civil, le code commercial, tout cela devra se faire, devra être adopté. Pourquoi ne pas le faire maintenant? Il faut le faire, c'est vous qui devez le faire. De toute façon, si on veut le faire, on sera bien obligé de vous associer. Alors je propose donc que cette sous-commission soit créée des affaires juridiques. Le problème de la monnaie. Le problème de la monnaie. On a écrit partout, on veut une monnaie commune. Où est l'étude? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors pourquoi vous ne la faites pas? Nous devons la faire. Comment créer une monnaie africaine? Déjà en 72, dans le rapport que j'ai fait à l'Union, à l'OIA à l'époque, je parlais du FARE, du Fonds africain de réserve extérieure, en disant qu'on regroupait un certain pourcentage de nos réserves extérieures pour servir de base à la création de la monnaie. Si on est d'accord pour créer une monnaie, encore il faut dire comment, avec quoi? Avec quoi? Les réserves extérieures, nous en avons beaucoup. Mais beaucoup de pays refuseront de mettre toutes leurs réserves. On peut dire 10%, 15%, 20%. Je crois qu'à l'époque, j'avais dit 20% et je disais qu'au bout de 20 ans, on devrait avoir la contrepartie de l'émission, l'essentiel de la contrepartie de l'émission d'une monnaie. On ne l'a pas fait. On avance. On n'a pas fait le premier pas. Parce que proclamer des choses, c'est facile. Mais lancer une monnaie, c'est autre chose. Il faut étudier les bases de cette monnaie. Quelle est la contrepartie de l'émission monétaire? Quelle monnaie on va émettre? Quelle parité cette monnaie aura-t-elle? Comment manager cette monnaie? Il faut une banque centrale d'émission. C'est prévu dans le texte de l'Union africaine. Mais elle n'a pas de consistance pour l'instant. Et sur le plan de l'économie aussi, il faut peut-être créer aussi une sous-commission des affaires économiques pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on va évoluer vers justement les États-Unis d'Afrique. Alors je voulais dire que sans réponse à ces questions, les intellectuels ne seront pas d'un grand apport dans la marche de l'Afrique. Car l'Afrique évolue dans le bon sens ou dans le mauvais sens, elle évolue. Moi, je pense qu'on évolue dans le bon sens. Encore que nous sommes en train d'atteindre les limites. Mais nous évoluons dans le bon sens. Ne serait-ce que le fait de lancer un pouvoir intergouvernemental qui n'est pas un gouvernement. Je le regrette. C'est déjà un pas, c'est un petit pas. Alors moi, ce qui m'étonne en Afrique, c'est que il y a certains, moi on nous appelle les maximalistes, alors moi je ne suis pas maximaliste, moi je trouve que c'est nous on est les normaux. Ce que nous demandons c'est normal, ce sont les autres qui sont en dessous. Il ne faut pas nous présenter comme voulant créer quelque chose qui est dans la stratosphère. Nous voulons faire ce qui a été fait dans l'histoire de l'humanité, ce que l'on constate partout. Donc il faut voir comment on peut amener les autres à monter vers nous, à faire le pas ou les pas décisifs vers ce que nous proposons. Et dans ce cas-là, leur expliquer leur crainte sur la souveraineté, ça n'a absolument aucun sens. D'ailleurs, dans un des projets que nous avons présentés du gouvernement fédéral, nous avons dit, c'est bien simple, nous allons dire que chaque ministre sera le président du conseil des ministres de sa compétence. C'est-à-dire le ministre de l'Agriculture de l'Union africaine ou des États-Unis d'Afrique, il sera le président du conseil des ministres de l'Agriculture. Donc, et dire que toutes les décisions se feront par consensus. Donc, il n'y aura pas d'atteinte à la souveraineté parce qu'il ne peut rien faire s'il y a un seul État qui est contre. Pourquoi avoir peur de ça? Et vous allez voir, parce que les États, vous savez, la peur, c'est comme
quelqu'un qui a peur, c'est quelqu'un qui dit, si je sors, il y a un lion, il y a un tigre, il y a une panthère. C'est l'imagination. Ici, c'est pareil. Il n'y a rien à craindre dans les États-Unis d'Afrique. Ce que nous faisons, c'est extrêmement positif. Donc, si on conçoit les ministères comme ça, le ministère des mines, n'importe quel autre ministère, président du conseil des ministres de son domaine, point final, et il travaille sur consensus. Et là, on peut avancer, parce que sur beaucoup de choses, dans la pratique déjà, il n'y a pas de divergence entre les États. Les problèmes qui paraissaient les plus difficiles, comme les affaires étrangères, ont été résolus depuis longtemps, dans les faits. Hein? Les ministres des Affaires étrangères ont toujours un porte-parole, et c'est tout ce qu'on demande. Ils ont un porte-parole à Cancun, ils ont un porte-parole aux Nations Unies, le ministre du Ghana, qui a parlé au nom de tous les États africains. Où est le problème? Si les ministres sont d'accord, donc on peut avancer vers les États-Unis d'Afrique, à la seule condition, bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai bien précisé les frontières. Alors, il reste bien entendu que les États-Unis d'Afrique, il ne faut pas en faire un problème des chefs d'État. Moi, je suis chef d'État, donc je ne perds rien. Moi, je suis en plein dans le cœur des discussions. Mais on a fait une affaire de chef d'État. Si les chefs d'État ne proposent pas, personne, on n'entend personne. Nous, on ne vous entend pas. J'ai l'impression que vous êtes un peu des contemplatifs. Et quand vous protestez, vous le faites dans le cadre des universités, des amphithéâtres, personne ne vous entend. Hein. Si vous voulez être entendu, il faut faire des prises de position publiques. Donc, il faut que les problèmes aussi importants que les États-Unis d'Afrique deviennent un problème de tous les Africains. Et qu'on entende les Africains. Qu'on vous entende d'abord, vous, les intellectuels, prendre une position concrète sur les problèmes, si difficiles soient-ils. Ce problème de la Méditerranée dont je parlais tout à l'heure. Mais alors, on se regarde comme ça. Moi, quand je rencontre quelqu'un de l'autre côté, bon, je pense quelque chose, lui aussi, il sait très bien que je pense quelque chose, et on ne se parle pas. Et on ne parle pas de ça. Il faut qu'on en parle, très franchement. Ils sont libres d'aller vers la Méditerranée. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Hein. Je l'ai déjà dit. J'ai déjà dit, sur la proposition de M. Sarkozy, parce que c'est la conception française de l'immigration qui est passée à Schengen. J'ai dit que moi, je ne fais aucune critique contre cette prise de position de l'Europe. Mais l'Europe est indépendante. Elle fait ce qu'elle veut. Nous ne pouvons pas l'obliger. Mais je dis simplement qu'on me reconnaisse, moi aussi, en sens inverse, le droit de définir d'autres stratégies. Et c'est là où j'ai dit que l'Afrique, au lieu de l'Afrique noire, maintenant je parle de l'Afrique noire, dans cette perspective de l'Union de la Méditerranée qui pourrait détacher l'Afrique du Nord de l'Afrique au sud du Sahara, je dis que nous devons trouver une stratégie. Et cette stratégie, pour moi, c'est l'alliance avec l'Amérique du Sud, avec le Brésil, jusqu'au Nicaragua, et de l'autre côté, l'alliance avec l'Inde, avec la Chine, avec l'Asie du Sud-Est. Mais on ne peut pas nous enfermer sans nous permettre de sortir de l'enfermement. Hein? Et cet enfermement-là, il a commencé. On a l'impression que vous ne le savez pas. Essayez d'aller en Europe et vous allez voir. L'enfermement a commencé, on ne réagit pas. On se croise les bras parce qu'on a peur. On a peur. Il faut prendre son courage à deux mains et défendre les intérêts de l'Afrique. Moi, je considère que le fait d'avoir une alliance avec l'Amérique du Sud et avec l'Asie, mais ce n'est pas une agression, puisque les Européens le font. Hein? Des pays de la Ruhr, maintenant, ils s'étendent à l'Europe de l'Est. Peut-être même il y aura la Russie là-dedans, je n'en sais rien. Ils s'étendent aussi vers la Méditerranée. Et nous, on se croise les bras. Et on regarde ça. On regarde, il y a un monde qui est en train de se dérouler sous les yeux. Si nous restons
contemplatif, eh bien demain, il peut y avoir des surprises. Moi, cela dit, je ne crois pas que la chose soit si aisée pour l'Afrique du Nord d'aller vers l'Europe. Je crois que ce ne sera pas facile. Je pense que un pays comme l'Égypte ne peut pas partir. J'ai dit à Moubarak, si vous allez vers la Méditerranée, si vous allez vers l'Europe, laissez-nous nos pyramides quand même. Ne partez pas sans les pyramides, laissez-nous nos pyramides. Mais Moubarak n'est pas chaud. Moi, pour Moubarak n'est pas chaud, on lui force la main. C'est lui qui le dit. Il n'était même pas associé aux premiers travaux de la Méditerranée. On l'avait écarté parce qu'il était africain. Arabe, bien sûr. Personne ne lui reproche ça. Mais maintenant, on lui dit, bon, voilà, je ne sais pas quelle institution là, on le fait au Caire, point final, c'est terminé. Alors, il faut qu'il réagisse, il faut qu'il leur dise, moi, j'en veux pas, je suis africain. Je suis pour l'unité africaine et que tous les pays de l'Afrique du Nord le disent. Moi, j'aimerais vraiment que ces questions-là soient clarifiées entre nous pour qu'on sache où on va. Alors, donc, il appartient aux intellectuels de réfléchir sur le futur. Je suis en train de lancer une revue de stratégie africaine, une revue africaine de stratégie. Et si certains d'entre vous ont des réflexions à faire sur le devenir de l'Afrique ou du monde, eh bien, nous accueillerons volontiers ces contributions dans cette revue qui va paraître à la rentrée. Je voudrais, à ce niveau, vous parler du festival en très peu de mots. Il y a la demande de participation est tellement forte que notre organisation a été dépassée et nous avons été obligés de renvoyer ce festival. Le festival de l'époque de Senghor était très simple. Il se déroulait dans un théâtre, tandis que là, c'est des milliers d'Africains, d'Afrique et de la diaspora qui veulent participer. Le mouvement connaît une certaine effervescence aux États-Unis. J'étais deux ou trois fois présidé la commission nationale américaine. Au Brésil, le président Lula est en train de parler à tous les chefs d'État de l'Amérique du Sud pour qu'ils participent au festival. En plus donc du fait que ce festival m'a été confié par l'Union africaine. C'est un festival de l'Union africaine, c'est-à-dire des États africains. En plus, n'est-ce pas, de la participation des Noirs d'Europe. Donc, la dimension est telle que nous ne pouvons pas l'organiser en ce mois de décembre. C'est pourquoi, en accord avec le Brésil, j'ai envoyé un ministre auprès du président Lula pour une concertation sur la date. Nous avons décidé de renvoyer ce festival jusqu'au mois de décembre 2011. Mois de décembre 2011, et même date du 1er au 15. Mais entre-temps, le monument de la Renaissance africaine que vous voyez ici, Gadio m'a dit qu'il allait vous amener là-bas, qui représente l'Afrique sortant des entrailles de la terre, de l'obscurité, de l'obscurantisme vers la lumière, représenté par ce géant africain, sa femme et son enfant, tous tournés vers l'Occident pour dire « Nous sommes là, l'Afrique est présente », eh bien, ce monument sera terminé dans 2-3 mois et nous allons procéder à son inauguration. Nous allons procéder à son inauguration au mois de décembre. J'attends une date qui va m'être indiquée peut-être aujourd'hui ou demain par le président Lula pour lancer des invitations. Nous voulons en faire un événement de tout le continent africain. De tout le continent africain. C'est pourquoi nous allons inviter tous les chefs d'État africains, inviter des chefs d'État d'autres pays pour en faire un événement mondial. Il représente la Renaissance africaine, qui n'est pas une idée que j'ai inventée. D'autres l'ont développée avant moi, Tabumbi qui l'a développée avant moi, et tant d'autres. Mais j'ai estimé qu'on pouvait traduire ça par une création d'une œuvre pérenne qui restera à travers les siècles pour montrer que l'Afrique aujourd'hui est présente et entend
être un partenaire qui exprime ses opinions et participe aux décisions de ce monde. Donc ce monument est le vôtre. Vous êtes tous invités à y venir, à venir participer aux festivités de l'inauguration. Je voudrais, pour terminer, vous dire que peut-être étiez-vous venu avec une certaine idée de ce qu'il fallait faire ici au Sénégal à travers le symposium et le forum dans le confort intellectuel traditionnel. Peut-être ai-je troublé votre quiétude, mais il n'y a pas de progrès tant qu'on n'est pas interpellé par des problèmes sérieux. Et les problèmes sérieux, j'ai entendu les poser. Je suis un panafricaniste, partisan des États-Unis d'Afrique pour le continent, mais je suis obligé d'ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe autour de moi. Et c'est en fonction de cela seulement que je pense nous devrons nous déterminer, car nous ne pouvons pas non plus plier l'évolution selon notre volonté. Il y a une évolution extérieure qui se fait sans nous. On a parlé tout à l'heure du Mercosur en Amérique du Sud, de l'ALENA au Canada, on a parlé de l'ASEAN, de l'accord du Sud-Est asiatique auquel se sont joints aujourd'hui le Japon, la Chine et la Corée. Dans le monde entier, les gens vont ensemble. Il n'y a qu'en Afrique où on fait le mouvement inverse. Et le mouvement inverse, ce n'est pas du tout réaliste et ce n'est pas dans les intérêts de notre continent. Alors voilà ce que je voulais vous dire. Ce que je voulais vous dire, mesdames, messieurs, en espérant que vous allez nous apporter quelques réflexions sur les grands problèmes qui sont aujourd'hui posés, sur la nécessité de vous ériger en commission, parce que si chacun s'en va chez lui là comme ça, il n'y a pas de suite, il n'y a aucune suite. Vous allez dégager beaucoup d'idées, il faut vous ériger en commission structurée avec des responsables, avec une périodicité de rencontres, et structurer la commission en sous-commission. Prendre les spécialistes de chaque domaine et lui dire, voilà, on vous demande de faire ça. On vous donne rendez-vous dans 6 mois ou dans 8 mois. Et le Sénégal est à vos côtés, en tout cas pour vous fournir tout ce dont vous aurez besoin sur le plan matériel, même s'il faut payer des billets d'avion, payer des hôtels, pour que vous puissiez vous réunir ici ou ailleurs, peu importe. L'essentiel, c'est que vous réfléchissiez sur les questions qui ont été énoncées ici, et que vous apportiez votre part de réflexion. Je ne terminerai pas sans vous demander d'encourager M. Jinping. Je sais dans quelles conditions il travaille, mais il travaille dans des conditions extrêmement difficiles. Et puis, ce n'est pas le patron, hein. C'est nous les patrons, nous les chefs d'État. Et chaque fois qu'il prend une décision, il dit, qu'est-ce qu'en pense un tel, qu'est-ce qu'en pense un tel. N'est-ce pas, pour ne pas avoir des problèmes, c'est extrêmement difficile. Alors, voilà ce que je voulais vous dire en vous remerciant. Maintenant, je déclare ouvert le symposium sur les États-Unis d'Afrique qui sera suivi du forum. Merci.